parti.
Super.
Du coup, je suis CEO et fondateur de Visual Behavior, le truc qu'il y a avec très peu de contraste à l'écran. Donc, c'est pas visuel. Ouais. Donc, nous, on s'est intéressé au problème de la robotique. Alors, on parle beaucoup de l'industrie 4.0 qui est en ce moment avec la robotisation. Mais en fait, derrière la robotisation, il y a le vrai enjeu, c'est la question de l'autonomie des robots. Donc, à savoir qu'ils soient capables d'agir tout seuls et d'assister l'humain dans ses tâches. Et donc, j'aimerais juste faire un petit détour en vous parlant de l'autre sujet automatisation qui est très présent et que tout le monde connaît sûrement, c'est la voiture autonome. Donc, mon défi de ce soir, c'est d'arriver à faire le lien entre la voiture autonome et ChatGPT. Voilà. Et donc, je vais parler de voiture autonome parce que c'est le plus gros retour d'expérience qu'on a sur le sujet, mais ce n'est pas ce qu'on fait, mais ça va vous aider à comprendre. Mon but, c'est de vous apprendre des choses ce soir, en 3 minutes. La voiture autonome, c'est quelque chose qui est un peu frustrant pour ceux qui la font, parce qu'en fait, ils ont dépensé des milliards, il y a des milliers d'ingénieurs qui ont bossé dessus, les GAFA ont injecté une thune monstrueuse, pour finalement arriver à faire une voiture plus ou moins autonome, avec beaucoup de gens qui ont abandonné, type Uber qui a complètement abandonné. Et ça, c'est à mettre en regard avec un humain qui, à peu près en 20, je crois que les stats officielles, c'est 30 heures, arrive à apprendre à conduire. Du coup, c'est un peu frustrant le décalage entre les deux. Et du coup, nous, on s'est intéressé à ça. Et en fait, quand je dis qu'un humain apprend à conduire en 30 heures, c'est un peu un abus de langage. C'est qu'il se confronte au monde depuis 16 ans ou 18 ans, selon la législation. Et après, il va mettre en application ce truc-là, cette connaissance du monde, comment le monde est composé, sur la tâche de je veux conduire une voiture. Et en fait, tous les fabricants de voitures autonomes s'intéressent à « j'essaye de copier les 30 heures d'apprentissage de conduite ». Et nous, chez Visual Behavior, on s'est intéressé pas à ces 30 heures-là, mais aux 18 ans qu'il y a avant de compréhension du monde. Voilà. Donc, vous allez voir le lien très rapidement. C'est dommage, on aurait dû faire l'inverse. Mais par rapport à un ChatGPT qui, lui, comprend le langage et vous pouvez discuter avec lui, nous, ce qu'on s'est intéressé, c'est pas à l'ère du langage du cerveau, mais c'est à l'ère visuelle, donc elle est plutôt vers l'arrière, là. Et donc, on a développé une technologie qui imite la manière dont l'humain voit et comprend le monde, et on applique ça non pas du tout à la voiture, mais à tous les autres robots qui aimeraient bien avoir un peu plus d'autonomie. Voilà. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'au lieu d'avoir développé quelque chose de spécialisé sur la voiture, au contraire, on a imité l'humain et sa capacité à s'adapter à plein de choses. Donc on a développé un logiciel, aujourd'hui on a une quinzaine, qui arrive aussi bien à s'implémenter sur des choses qui roulent, qui flottent, qui volent, parce que ben, comme un humain, vous pouvez piloter demain un avion, une voiture, enfin avec 30 ou quelques heures d'apprentissage, mais vous êtes capable de vous adapter. Et donc, on applique ces technologies aujourd'hui à typiquement le bus, parce qu'ils en ont un peu marre d'écraser des cyclistes, aux engins de BTP, parce qu'ils en ont un peu marre d'écraser des gens. Vous voyez, c'est un peu une constance chez nous. Mais en fait, il y a beaucoup de machines aujourd'hui qui sont quasiment aveugles, et avant de remplacer les humains, où il y a des gros besoins d'assistance à l'humain, pour leur permettre de typiquement arriver à rendre l'humain plus efficace dans son taf et à lui permettre de mieux comprendre ce qu'il a autour de lui. Parce que quand vous conduisez un engin de chantier, vous ne voyez absolument pas ce qu'il y a derrière. Et pourtant, dans un chantier, il y a beaucoup de choses qu'il peut y avoir, autant un trou qu'un humain, que n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est le cœur de notre métier. Donc, notre particularité, c'est qu'on développe du coup de l'intelligence. Notre but, c'est pas de faire des capteurs ultra coûteux type LIDAR, mais c'est de développer des algorithmes comme l'humain. C'est un problème d'intelligence, c'est pas un problème de capteur, et de vendre ça aux fabricants de robots qui peuvent l'implémenter dans leurs machines et rendre leurs machines plus intelligentes. On s'est attaché à vraiment à l'ère visuelle. On traîne sur des données, mais si on compare à un ChatGPT, on n'apprend pas du tout sur des chantiers. On apprend des choses complètement communes qui se transfèrent très bien sur des chantiers, si je prends cet exemple-là, parce que en fait, chez l'humain, c'est ce qu'on appelle le sens commun, et c'est ce sens commun qu'on veut transmettre aux machines. En fait, on est vraiment parti du principe que l'humain est compétent grâce à son intelligence et pas grâce à ses yeux. Moi, personnellement, je me suis fait opérer des yeux. J'avais une très mauvaise vue avant et ça m'empêchait pas de pouvoir naviguer et faire ce que tout le monde fait. Même si on parle de sujets qui sont assez gros et de secteurs qui se chiffrent en milliards, on est loin du trilliard de la voiture. Et donc, en fait, ils n'ont pas la capacité d'investissement pour développer des solutions spécifiques pour leur secteur. Quand on voit qu'un Uber, je crois que Uber, Google, Apple, s'ils sont mis pour la voiture autonome et n'y arrivent pas, on peut comprendre que même quelqu'un qui est à la tête d'un secteur du BTP, par exemple, ce soit quelque chose où ils n'osent pas aller dedans. Et la particularité de notre technologie, c'est que vu qu'elle est transférable à plein de domaines, on ne va pas développer quelque chose de spécifique par secteur, mais on va pouvoir englober tous les secteurs et donc avoir une mutualisation de la R&D sur les différents secteurs. Mais l'histoire s'est faite dans l'autre sens, hein, pour la petite histoire, c'est que tous ces acteurs ont essayé de le faire dans leur coin depuis à peu près 5 ans. Ils se sont tous cassés les dents dessus et en fait, ils viennent tous nous voir. Et c'est pour ça qu'on a créé à la base, hein, parce qu'ils se sont rendus compte qu'internaliser, c'était trop compliqué et que c'était un sujet trop complexe pour eux et que c'est pas leur cœur de métier en plus. Ouais, en fait, on perd de la performance brute comparé à si vous aviez fait un jeu de données parfaitement pour le BTP, dépensé quelques millions dans le domaine, etc. Mais le fait est que personne ne peut le faire. Enfin, c'est des données qui sont difficiles à acquérir. Et par contre, vous gagnez beaucoup en sens commun. Alors, pour vous donner une idée un peu plus bizarre, parce que le BTP, ça reste quelque chose qui ressemble, hein, nous, on entraîne nos algorithmes sur des jeux de données de la vie de tous les jours, on va dire. Et en fait, quand on l'applique dans le cas du bateau, donc sur l'eau, il est capable de détecter un canard sur l'eau en lui disant, ça, c'est un obstacle, attention, ça fait pas partie du fond et c'est pas là où tu peux aller. Alors qu'il a vu aucun jeu de données spécifique sur l'eau, il n'y a rien qui a été développé dans ce sens-là. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu le sens de. En fait, il comprend la physique et la géométrie d'une scène, et ça, c'est valable peu importe que vous soyez dans un BTP, dans une forêt, dans tout ce que vous voulez. Nous, il y a une question. Enfin, il y a un mix de questions éthiques et de questions. Voilà. On a fait le choix d'aller dans le civil, d'une part parce que le cas militaire a pas du tout les mêmes price points. Et est capable d'utiliser des technologies beaucoup plus avancées qui existent et qui peuvent se permettre de personnaliser pour eux. Et après, le civil est beaucoup plus généraliste. Donc en fait, on a fait le choix de servir le civil d'abord et du coup, on est assez inadapté au militaire. Et après, du coup, c'est devenu une identité d'entreprise. C'est que littéralement aujourd'hui, si je disais à mes équipes qu'on bossait pour la défense, je pense que je perdrais à peu près les 3/4 de mes équipes. Voilà. Et en fait, typiquement, nous, on bosse dans le drone, on bosse avec des drones, enfin, l'autonomie de drone. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine avec du drone, on est content de ne pas être parti dans cette direction-là, quoi. En fait, enfin, vous avez compris, on est très versatile. Et du coup, on cherche toutes les entreprises industrielles qui font des robots. Nous, on vend à des fabricants de robots et qui cherchent à augmenter leur niveau de service. Et justement, à augmenter leur niveau de service, on a deux. On peut séparer deux segments de marché chez nous. Il y a la partie assistance et la partie autonomie. Assistance, c'est j'ai un humain qui pilote et je veux lui donner de meilleures informations. Et l'autonomie, c'est j'ai quelque chose qui se balade déjà tout seul et j'aimerais bien qu'il soit plus performant, qu'il arrête de foncer dans les murs, etc. Donc, si vous avez un use case qui ressemble à ça, voilà, et il y en a beaucoup, je serais ravi d'échanger avec vous.